Les jardinières.
Bonjour à tous, bonjour Éline.
Bonjour Sandra.
Ce matin, c'est en compagnie de Philippe Détra, horticulteur à Neuchâtel, que nous allons parler jardin, fleurs, plantes. Philippe est également spécialisé dans les plantes aromatiques, mais ce matin, il est également là pour répondre à toutes vos questions, à toutes les questions que vous vous posez concernant vos extérieurs ou vos intérieurs. Philippe, bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
On l'a dit, hein, votre spécialité, c'est les plantes aromatiques. On les utilise tout au long de l'année pour les recettes culinaires, mais pas que. On les utilise aussi pour prendre soin de soi. Au fil des ans, on découvre de nouvelles saveurs, de nouvelles senteurs. On se demande si on peut les planter chez nous. On se demande quelle est la saison pour les planter, également à quoi elles servent. On profite ce matin de vous avoir sous la main, de vos connaissances. Merci d'avance de nous aiguiller sur ce sujet. Et merci également de répondre à tous nos auditeurs.
Les auditeurs qui peuvent d'ailleurs nous poser des questions jusqu'à 8 heures, soit par téléphone, tout simplement en composant le 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute, ou alors également par SMS tout au long de l'émission en tapant le mot jardin suivi de votre question, puis vous nous envoyez le tout au 939.
Bienvenue parmi nous, nous sommes ensemble jusqu'à 8 heures, bienvenue chez les jardinières.
7 heures, 8 heures. Les jardinières.
Et des questions, nous en avons reçues cette semaine, une question notamment de Marie-Christine.
Oui, Marie-Christine utilise comme labour de la grelinette. La terre de son potager est une terre argileuse et calcaire à laquelle Marie-Christine ajoute régulièrement du compost. Cette terre, elle commence très gentiment à changer. Elle voudrait avoir votre avis, Philippe, concernant le choix du labour.
Alors, le choix du labour à grelinette me paraît très bon, même si personnellement je ne l'utilise pas, car dans notre établissement horticole, on travaille principalement les pots. Donc on cultive les plantes en pot et on n'a pas besoin de labourer. C'est de toute façon beaucoup plus respectueux que de labourer avec une bêche, puisque lorsque vous labourez avec une bêche, on va mettre un gentil bordel dans ces couches de terre, donc les couches de terre ont des organismes vivants qui vont être complètement retournés. Donc les organismes vivants qui étaient près de la surface vont se retrouver au fond, et inversement. Donc la grelinette, sympa.
Et elle aimerait également savoir si c'est plus radical de retourner sa terre en profondeur avec un motoculteur ou risque de retourner des graines enfouies et compagnie.
Si c'est plus radical.
Mm-hmm.
Ok. Ça va donner exactement le même effet que lorsque vous labourez avec une bêche, avec le motoculteur, on va tout retourner. Donc on va faire le chenil, quoi. Et avec le risque, s'il y a des liserons, par exemple, de faire de la multiplication de liserons, car les lames du motoculteur vont couper de nombreux bouts de racines qui vont en fait faire des nouvelles plantes. Oui.
Voilà pour Marie-Christine. Voilà pour Marie-Christine. La réponse. Mais alors, il vaudrait mieux, d'après votre réponse, qu'elle évite donc le motoculteur.
Alors, même si nous, on pratique le motoculteur, relativement peu, c'est vrai que le motoculteur permet d'ameublir le sol, mais il va falloir un petit peu de temps ensuite au sol pour se rééquilibrer.
Et en ce moment, c'est la bonne période pour justement faire ce genre de travaux, ce genre de labour?
Alors, disons que le travail de labour ou d'utilisation de la grelinette va se faire juste avant des plantations. On évite absolument de faire ce travail des semaines ou des mois à l'avance, car s'il y a des précipitations, il y aura de l'érosion. Les petites particules du sol vont partir dans la pente, et il vous restera, en gros, les cailloux.
Philippe, on l'a dit tout à l'heure, hein, vous êtes spécialisé dans les plantes aromatiques, hein, alors évidemment, vous ne faites pas que cela. Une citation dit de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Est-ce que c'est la même chose pour les plantes aromatiques, à savoir, est-ce qu'il ne faut pas les planter dans le même bac, sur la même bande ou dans le même pot?
Alors, dans le même pot, en fait, il n'y a pas beaucoup de plantes qui ne s'entendent pas. Si on parle de plantes aromatiques, c'est peut-être juste la menthe qu'il va falloir isoler des autres, car
on dit que
la menthe est fugueuse. Donc vous la plantez au centre d'un pot et en fin de saison, vous la retrouvez tout au bourg. Elle a envie de partir. Et en fait, elle risquerait aussi d'envahir un tout petit peu les autres et de les gêner dans leur développement.
Et au niveau des herbes, on connaît alors les traditionnels, hein, le thym, le basilic. Ouais. Le basilic qu'on connaît depuis peu d'années finalement, puisqu'au début dans les jardins, on avait beaucoup de thym, de romarin, de menthe, de ciboulette. Alors beaucoup d'entre nous, à travers leur voyage, découvrent d'autres fragrances et d'autres goûts. Est-ce qu'il est possible de tout faire pousser partout?
Je dirais oui et non. Non, parce que... Vous prenez des herbes aromatiques telles que la ciboulette et le persil, elles n'ont pas les mêmes besoins. Mm-hmm. Donc la ciboulette peut parfaitement bien aller au soleil, alors que le persil se sentira beaucoup plus à l'aise dans un endroit un tout petit peu frais et bien drainant, avec un peu d'humus. La ciboulette supportera une terre de vigne, par exemple. Donc c'est surtout en fonction des besoins des plantes que l'on va les placer dans des pots ou dans des plates-bandes.
Alors, quand je pensais aussi également tout partout, alors effectivement, il faut tenir compte de celles qui ont besoin, comme vous le dites, du soleil, de celles qui ont besoin d'ombre, de celles qui ont besoin de plus de fraîcheur, de celles qu'on devra peut-être arroser plus que d'autres. Mais je pensais également à toutes ces plantes aromatiques qu'on peut découvrir qui sont par exemple dans les pays ensoleillés et qu'on désirait ramener et planter chez nous. Est-ce que, je pense par exemple à la fleur de curry, par exemple, est-ce que chez nous, on a des chances qu'elle pousse ou alors est-ce qu'on a meilleur temps de la laisser du côté des pays ensoleillés?
Donc, si vous pensez à la plante de curry qui porte le nom d'Helichrysum italicum, c'est une plante du pourtour méditerranéen qu'on trouve naturellement là-bas. Et c'est une plante que moi je cultive régulièrement, au même titre que la lavande. On peut parfaitement la mettre avec la lavande. Maintenant, je vais juste préciser que c'est pas du curry.
D'accord.
Ça sent le curry.
Oui, ça sent le curry.
Parce que le curry, c'est un mélange de plusieurs épices.
Ça sent le curry, effectivement.
Voilà. Par exemple, la coriandre, on arrive à la faire pousser chez nous, c'est aussi un élément du curry, n'est-ce pas?
Oh, la coriandre, ça sera...
C'est plus difficile.
C'est parfois un petit peu délicat, c'est un petit peu... demande les conditions à peu près semblables au persil. Mais le curry, on peut l'utiliser. J'ai travaillé autrefois avec un restaurant qui l'utilisait, mais ils étaient un petit peu lourds dans leur utilisation et ils en mettaient plein dans le riz. Ça donne très peu de goût et en fait, si on en mange un peu trop, on risque d'avoir des petits problèmes d'estomac.
Problèmes gastriques, vous l'aurez bien compris.
Et ça, c'est une plante extraordinaire en aromathérapie.
D'accord. Alors, elle a des bienfaits. Moi, je vous demande ça parce que j'en ai vu dans des jardins ici autour. Je ne connaissais pas cette plante. Je l'imaginais, comme vous le dites, dans des pays en bord de mer. Et donc, on peut l'utiliser pour quelle, pas que pour des recettes culinaires. Vous l'avez dit. Alors, pour elle, quels sont les bienfaits de cette plante?
Alors, je veux juste aussi préciser que je ne suis pas docteur,
oui, bon.
ni herboriste, même si je suis passionné par les herbes aromatiques. En fait, je n'ai pas le droit de donner ces conseils-là.
D'accord.
Mais elle est souvent utilisée au même titre que l'arnica.
D'accord. Voilà,
je dirais qu'elle est peut-être même meilleure que l'arnica, mais là encore, je ne suis pas un spécialiste absolu dans la matière.
Ok. Et puis, est-ce que quand on veut planter nos plantes aromatiques, est-ce qu'on doit tenir compte quand même de faire attention à ne pas trop mélanger les sortes, hein, que le jardin soit pas trop riche de fragrances, de senteurs qui pourraient ressembler à un doux bordel?
Alors, ce doux bordel, je le cultive et je vois pas le problème. Ce qu'il faut toujours faire attention lorsqu'on plante des plantes, que ce soit des légumes ou n'importe quoi, des arbres partout, prenez garde à la dimension qu'il va avoir en tant qu'adulte après. Parce que si vous les mettez trop serrés, eh bien, ils vont se gêner mutuellement. C'est surtout ça. Puis après, il y a le problème des nutriments. Il y en a qui vont piquer la nourriture aux autres. Donc, c'est surtout ça le problème. Mais je crois pas que de mélanger des fragrances gêne
soit mauvais. Si on plante de la lavande à côté de la menthe, ça va, ils vont pas prendre... le goût l'un et l'autre.
Je reviens sur la menthe
qui est prolifique. Ouais. Faut la mettre. Alors la menthe, la menthe, vite un petit rappel avant de la menthe. En fait, idéalement, on la met en pot et puis on la laisse dans un coin.
Exact.
D'accord.
Dans un pot ou par exemple dans une seille ou un seau auquel vous aurez fracassé le fond de façon à ce que l'eau en excès puisse s'évacuer en cas de forte pluie. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est le bon moyen de la cerner un peu.
D'accord, Philippe, on vous remercie. Et de notre côté, on attend des nouvelles et des appels des auditeurs.
Oui, on va lancer une petite pause musicale et durant cette chanson, on vous invite à nous appeler notamment au 0901 70 20 20 pour poser directement votre question à Philippe Détra qui est là pour répondre à vos questions justement jusqu'à 8h ou alors par SMS. Vous tapez le mot jardin suivi d'un espace puis de votre question et vous nous envoyez le tout au 939. Oui, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions soit par téléphone jusqu'à 8h. N'hésitez pas à composer le 0901 70 20 20 ou alors comme Barbara, vous nous envoyez un SMS, vous tapez le mot jardin suivi d'un espace puis de votre question et vous nous envoyez le tout au 939. Barbara de Cormandrèche qui nous a demandé justement, puisqu'on parlait des plantes aromatiques, comment couper la ciboulette avant qu'elle devienne dure et fasse des fleurs. Quel est le meilleur moyen de l'entretenir finalement, Philippe?
C'est pas très compliqué, il suffit de prendre des ciseaux et de la couper à la base, enfin les couper les tubes dont vous avez besoin, et la plante en refera de nouvelles.
Alors souvent, vous dites la couper, mais souvent avec la ciboulette, on envoie le petit au jardin, va vite chercher de la ciboulette, on oublie justement de lui donner des ciseaux parce qu'on se dit, il va en arracher quelques boîtes. Est-ce qu'il y a une différence entre la couper et l'arracher?
Non, à mon sens, pas du tout, mais ça sera juste un peu moins propre si c'est fait en arrachant.
C'est juste ça donc, mais sinon elle va repousser, enfin il n'y a pas de problème.
Ouais, elle ne va pas vous en vouloir, je crois pas.
Donc on peut continuer d'envoyer les enfants.
Elle n'est pas rancunière la ciboulette.
On a parlé donc des plantes aromatiques, on peut revenir dessus en tout temps. Pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez des problèmes avec votre lavande, votre basilic romarin et j'en passe. On va parler également avec vous Philippe, des arbres fruitiers, mais plus précisément des baies, des framboises, des fraisiers, des groseilliers, des mûriers, je pense qu'il y en a tout plein. Ils en sont où, eux, en ce moment, au niveau de la pousse, ces baies? Enfin, elles en sont où?
Alors, ils sont en pleine croissance, là, les bourgeons sont en train de s'ouvrir. Donc, on parle bien des arbustes à petits fruits, les arbres fruitiers, honnêtement, je connais un petit peu moins, même si j'ai pratiqué. Mais les arbustes à petits fruits sont en train d'exploser au niveau, la pousse des bourgeons, quoi. On voit même déjà les grappes des groseilliers, des groseilliers à grappes.
Alors ceux qui nous écoutent qui en ont, quand est-ce qu'ils pourront faire un petit coulis ou bien des confitures? La cueillette, c'est à quel moment, enfin à quelle date?
Ça va commencer en fin du printemps. Ouais, fin du printemps, déjà mois de juin. On pourrait même avoir déjà fin mai quelques fruits. Ça dépend en fait, c'est la saison qui va vous décider. On peut mettre des plantes précoces qui peuvent donner relativement tard si le printemps est pourri. Donc on peut pas planifier ces confitures à la semaine près.
Philippe, on a une auditrice qui est avec nous qui a une question à vous poser. Bonjour, qui est avec nous?
Oui, c'est Claudine de Baule.
Bonjour Claudine.
Bonjour.
Bonjour à toute l'équipe. Comme je suis régulièrement vos émissions, j'ai une petite question concernant mon basilic. Parce que c'est déjà le deuxième que j'achète, que je garde chez moi, près de la fenêtre, à la cuisine. Et il s'étiole et il sèche et il pécloute. Est-ce que je dois le mettre dehors?
Ok. Alors le basilic, moi j'ai une fâcheuse tendance à être jardinier prudent et en fait je ne vends pas de basilic avant le début mai. Alors je sais qu'on peut en trouver dans différentes grandes surfaces.
Oui, il y en a plein partout.
Voilà. Puis c'est pas une plante qui aime être dedans. Donc chez nous on la cultive en serre, Mais c'est des bâtiments qui sont très lumineux, bien aérés. Donc là, ils vont bien. En cuisine, en principe, ils vont pas être bien. Ils vont résister un petit moment, ce qui vous permettra de le couper. Moi j'attendrai honnêtement début mai pour acheter des basilics et les placer dans un endroit protégé de la bise, de la pluie.
Donc sur le balcon à l'ombre, ça peut
exactement
aller.
Un endroit bien cocooning. Enfin bien. Bien, bien sympa, à l'abri du soleil, de la bise et de la pluie. Ça, c'est le top pour le basilic.
Ah oui, de toute façon, alors, il n'y a pas de bise, il n'y a pas de pluie à cet endroit-là.
Voilà.
Je suis bien calfeutré.
Et puis attendre. Alors, ils ne vont peut-être pas venir, c'est froid, mais en principe, jusqu'à début mai, 10 mai, on peut avoir des risques de petits gels au sol. Et ça, votre basilic, il ne va pas aimer du tout.
Non, mais moi, je ne suis pas au sol, hein. Je suis au premier étage.
Ouais, non, mais ce que je dis au sol,
enfin,
il va quand même faire un petit peu frais sur votre premier étage, un matin de gel.
Oui, donc c'est risqué pour le persil.
Ah non, le persil, c'est bon. Le persil, ciboulette, c'est OK.
Persil, l'origan
aussi. Le coriandre, il faudra attendre un petit coup. Mais le basilic,
faut attendre. Et puis les géraniums aussi.
Le géranium, c'est aussi prudent d'attendre, ouais. C'est prudent d'attendre.
Moi, j'en ai mis un. Et puis, je l'ai recouvert d'un voile qui sert de moustiquaire.
Mm-hmm. Oui, je pense à de la grille. C'est peut-être un voile blanc. Personnellement, je ne dormirai pas dessous. S'il fait frais la nuit, je ne dormirai pas dessous. J'ai déjà la grippe. Donc, mais le géranium, vous pouvez le mettre dehors maintenant. Il n'y a pas de souci avec le temps qui fait, il est doux.
Plantes coriaces quand même.
Mais faut être attentif à la météo. Et puis, s'il y a des risques de froid prévus pour le lendemain, il faut les rentrer pour la nuit.
Alors, vous savez, je vous propose de ne pas quitter l'antenne, Claudine, de rester avec nous, de ne pas raccrocher et de profiter pour mettre vite votre géranium dehors. On se retrouve tout à l'heure, si vous êtes d'accord, le temps de prendre des nouvelles du ciel et de la route. Ça vous va?
D'accord. Très bien.
À tout à l'heure.
Reste en ligne.
Les jardinières.
Des jardinières qui sont en forme ce matin, qui ne sont pas seules, puisque nous sommes en compagnie de Philippe Détra. Philippe qui est horticulteur à Neuchâtel. Philippe qui vous conseille, Philippe qui fait au mieux pour répondre à vos questions, des questions que vous nous avez envoyées par SMS. Mais vous pouvez également nous téléphoner, n'est-ce pas, Eileen ?
Exactement, au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Ou alors vous tapez le mot jardin suivi d'un espace, puis de votre question. Et vous nous envoyez tout ça, un SMS, donc au 939. Et d'ailleurs, on a encore Claudine en ligne. Bonjour Claudine.
Mais rebonjour.
Rebonjour. Vous nous parliez tout à l'heure de votre basilic et également de fleurs qu'on peut poser sur le balcon. Et apparemment, vous vouliez encore quelques précisions, si je m'abuse.
Oui, ben, qu'est-ce que je fais avec ce basilic? Parce que là, il s'étiole. Alors, est-ce que j'essaye de le mettre dehors et de le calfeutrer?
Ok, donc vous l'avez rentré en cuisine et c'est une plante.
Non, je l'ai toujours laissé en cuisine.
Ouais, ok. Donc c'est une plante qui va un tout petit peu se fragiliser à l'intérieur. Donc il faudrait, si vous voulez le sortir, moi je ferai ça pour le prochain, disons. Parce que si s'étiole, vous avez meilleur temps de le consommer et l'affaire sera belle. À la limite, si vous le coupez en dessus d'un ou deux nœuds, il va faire des nouvelles pousses.
Voilà. Avec les ongles.
Il va faire des nouvelles pousses. Et ces nouvelles pousses, vous pouvez, si vous leur sortez votre basilic, eh bien, elles vont s'habituer à son nouvel environnement extérieur. Mais toujours un peu à l'abri.
À l'abri, ok. Et pas d'eau dans la soucoupe?
Alors non, il n'aime pas avoir de l'eau qui stagne. Donc l'arrosage se fait en principe sur la terre. Évitez d'arroser le basilic par-dessus les feuilles.
Mais parce que celui-là, je vais... Je ne mets pas avec quelque chose d'autre.
Excusez-moi, j'ai pas compris.
Non, j'ai dit je le laisse tout seul, le basilic.
Ouais,
je ne mélange pas avec d'autres.
Non, parce qu'en général, les autres plantes n'ont pas les mêmes besoins. Il y a peu de plantes qui ont les mêmes besoins.
J'espère que ces conseils vous ont aidé, Claudine, et que si vous avez encore un souci avec votre basilic, n'hésitez pas à nous rappeler la semaine prochaine.
Je mettrai peut-être à la poubelle.
Bah pour le prochain, alors, vous suivrez les conseils qu'on vous a donnés ce matin.
Absolument. C'est très gentil.
Merci beaucoup, Claudine.
Merci, Claudine.
Bonne journée.
Bon week-end. Au revoir. Bon week-end. Merci.
Bonne journée.
Durant notre pause musicale, on a également reçu des SMS, notamment un SMS de Claude qui nous demande justement, il a une rhubarbe qui met ses premières côtes et déjà des fleurs apparaissent. Est-ce qu'il faut couper ou laisser ses fleurs ?
Alors, la rhubarbe, en principe, on enlève les inflorescences, donc les fleurs, pour éviter d'épuiser la plante. Voilà. Maintenant, quand est-ce que ce monsieur a planté sa rhubarbe ? Peut-être vous ne le savez pas.
On ne le sait pas. D'ailleurs, si Claude nous écoute, il peut sans autre nous appeler au 0901 70 20 20 pour préciser son souci, ou alors simplement nous renvoyer un SMS en tapant le mot jardin, suivi d'un espace, puis de la question et des précisions au 939. Mais par exemple, s'il l'a planté il y a peu, est-ce qu'il y aurait une solution qui est différente que à longue durée, c'est ça ?
La rhubarbe, si vous éclatez une vieille plante, c'est-à-dire avec la bêche, vous allez sortir une grosse souche, vous faites des éclats, vous les replantez ailleurs, il faudra attendre 3 ans avant de ah ouais, avant de...
Il faut être patient avec la rhubarbe.
Manger de la tarte.
Il faut bien réfléchir à l'endroit où on va la mettre, parce qu'on la change tout le temps de place, on n'aura jamais de rhubarbe. Donc 3 ans, et si vous achetez une plante qui est déjà bien enracinée en pot, 2 ans suffisent. Donc pendant 2 ans, il faut lui ficher une paix royale et lui couper les inflorescences de façon à ce qu'elle puisse bien s'installer. Voilà.
Donc à tous ceux qui nous écoutent, hein, si vous vouliez faire de la tarte à la rhubarbe que vous l'avez plantée dernièrement, c'est râpé, c'est foutu, c'est mort. Oh.
Bah, vous préparez une bonne recette en 2-3 ans, je pense que c'est faisable. On a aussi reçu une question de Nicolas de Tavannes qui nous demande « J'aimerais savoir comment garder mes géraniums en forme car ils sont toujours fripés. » Vous avez une petite solution miracle peut-être, Philippe.
Fripés. Alors le... frippé, je vois pas pourquoi.
Chiffonné.
Il y a une raison peut-être, c'est qu'il y a des pucerons. Ça, c'est possible. Donc, c'est probablement des géraniums ou des pélargoniums qu'elle a voulu garder d'une année à l'autre. C'est ce que je suppose. Et si les feuilles sont fripées, il y a probablement des pucerons. Ces pucerons piquent les cellules des feuilles, et ces cellules ne peuvent pas se développer, donc la plante va être plus ou moins difforme. Maintenant, je ne sais pas s'il y a peut-être une autre raison, mais c'est la raison première que je vois.
Bah merci beaucoup Philippe, hein. Je rappelle à tous les auditeurs qui vous êtes là jusqu'à 8h pour répondre à toutes les questions. Questions qui peuvent d'ailleurs nous poser soit par SMS comme l'ont fait Nicolas et Claude. Vous tapez le mot jardin suivi d'un espace puis de votre question et vous nous envoyez tout ça au 939. Ou alors n'hésitez pas également à nous passer un petit appel au 0901 70 20 20. Promis, on ne mord pas, hein. On est juste là pour donner les meilleurs conseils possibles côté jardin.
Elles font plaisir à tout le monde. Tout le monde les adore. Tout le monde aime la saison des fraises. Philippe, ces fameuses fraises, il y en a alors déjà qui sont en fleurs. Il y en a des fraisiers donc qui sont en fleurs. Il y en a qui ont du mal de pousser. Est-ce qu'on peut parler un peu de ce fruit qu'on aime tous et toutes ?
Mais bien volontiers, puisque c'est une culture que j'aime bien. J'ai quelques variétés en collection, une trentaine à peu près. J'essaye toujours de retrouver quelques vieilles, quelques vieilles variétés. Et c'est souvent des bonnes variétés. Donc, dans les fraises, on fait 2 catégories déjà. On a les remontantes et les non remontantes. Qu'est-ce que c'est qu'une fraise remontante ? C'est une fraise qui donne et redonne. Voilà, je crois que c'est relativement simple. Selon la saison, elle va donner déjà depuis le mois de mai, s'il fait suffisamment chaud, et jusqu'en octobre. C'est comme les fraises des bois. Et puis on retrouve dans cette catégorie la Mara des bois, qui est une fraise moyenne à grosse, ronde, et qui a un goût de fraise des bois, et qui donne pendant toute la belle saison.
Alors, on va revenir sur les fraises, hein, parce que, Aileen, vous avez des appels, vous avez des SMS, le téléphone déborde, si je puis dire. Aileen.
J'avais un appel, mais la personne, elle a raccroché. Je ne sais pas si je lui ai fait peur en me disant bonjour les jardinières. Donc, si la personne veut bien nous appeler, c'est au 0901 70 20 20. Mais par contre, on a reçu des SMS, notamment un SMS de Gianluca, qui nous demande, l'année dernière, une Vespa a terminé sa course dans nos tuyas, dans notre résidence secondaire en Toscane. Depuis, nos tuyas sont toutes jaunes. Que faire? Que faire quand les fleurs ont été abîmées comme ça physiquement, Philippe?
Ouche. là, physiquement, ben, soit il reste quelques branches et puis on va les chouchouter pour qu'elles repoussent. Maintenant, si la Vespa est venue un petit peu trop fort, il risque d'y avoir bêtement une plante fracassée. Puis là, il faudra la changer. Je crois que là, c'est...
Parfois, on ne peut rien faire. Parfois, c'est...
Voilà, en replanter, donc replanter un tuyat à cet endroit-là.
Bon, les miracles, c'est ailleurs. Ça. Mais non, je pense que c'est vite vu. La plante, si elle est cassée trop basse, elle va mettre énormément de temps à repousser. Donc il faudra probablement la remplacer.
Merci. Éline, on a un deuxième SMS peut-être?
On a reçu un appel cette fois-ci. J'ai Janine qui est avec nous. Bonjour Janine.
Mais bonjour.
Bonjour Janine.
Bonjour madame. J'ai un citronnier. Et ce citronnier, je l'ai moi-même piqué, fait grandir. Et ce qui est embêtant, c'est qu'il n'a pas des belles feuilles vertes foncées comme ça. Il a des feuilles vert jaune comme ça, mais elles ne tombent pas. Et puis, il pousse beaucoup, mais pas sans fleurs. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans la terre pour... Il est dans une véranda.
Ah, très bien. Écoutez, j'ai le même souci. J'ai le même souci, par contre, je connais le remède que je ne peux pas utiliser parce que je suis en bio. J'ai mes cultures en bio, donc je ne peux pas utiliser d'engrais chimiques. Les agrumes, donc tous les citrus, orangers et compagnie, ont besoin d'engrais avec du magnésium. Et cet engrais, on ne le trouve qu'en engrais chimique. On ne peut pas le trouver en bio. Donc moi, je dois me satisfaire de mes feuilles jaunes. Vous pouvez faire quelque chose. Vous allez en jardinerie, vous demandez un engrais pour agrumes.
Oui, ça j'ai déjà mis, mais il faut en mettre souvent alors.
Alors, il faut, ben, disons que lorsque la plante pousse, elle a besoin de nutriments. Et si elle a déjà des feuilles jaunes, c'est qu'elle est légèrement en carence. Donc, il va falloir respecter les doses. Et puis, un arrosage sur deux, éventuellement, vous lui mettez cet engrais pour agrumes.
Ah, aussi souvent quand même, un arrosage sur deux. Ah oui.
Quand on dit un arrosage sur deux, c'est parce qu'on l'arrose à peu près combien de fois, un citronnier?
Alors, le citronnier, comme n'importe quelle plante, j'ai une réponse toute faite en 40 ans de métier, vous plantez le doigt dans la terre.
C'est mouillé. Et quand c'est sec, on met de l'eau.
Voilà, exactement.
Ça, la solution miracle.
Ça s'adapte à toutes les plantes. Pendant toutes les saisons.
Eh bien, je vous remercie beaucoup.
Mais merci à vous, Janine.
Merci, Janine. Bon week-end.
Merci, bonne journée aussi. Au revoir.
Vous avez encore quelques minutes pour nous appeler au 0901 70 20 20 si vous avez une question à poser à notre jardinier. Ou alors, vous nous envoyez tout simplement un SMS. Et d'ailleurs, on a reçu un SMS qui dit « Bonjour, j'ai un hoya, fleur de cire, et il n'a jamais fleuri, mais il a un feuillage magnifique. Que faire ?» C'est José qui nous écrit.
Moi, je vous suggère de le changer de place, de le mettre à un endroit probablement le plus lumineux. Et puis, si une fois il y a des fleurs, vous ne le bougez plus. Voilà. Mais c'est souvent une histoire de luminosité. Ça peut être aussi une affaire de nutriments, donc d'engrais. Comme vous cherchez à avoir des fleurs sur cette plante qui est verte, eh bien, il faudrait peut-être aussi utiliser plutôt un engrais pour plantes à fleurs, qui va peut-être l'aider à former des boutons floraux.
Mmh. Philippe, on a également un appel. Bonjour, qui est avec nous?
Oui, c'est Marie-Claire, bonjour.
Bonjour Marie-Claire.
Bonjour.
J'ai un reine Claude à la maison, un arbre d'un reine Claude qui date d'une trentaine d'années. Et puis cette année, il a le tronc, l'écorce qui est mangée. Et en creusant un petit peu, ça fait des trous. On voit que c'est un champignon. Qu'est-ce que ça peut... Comment est-ce qu'on peut traiter ça? Ou est-ce que notre arbre est fichu?
Alors, je ne pourrais pas vous dire s'il est fichu ou non, mais en l'occurrence, on ne peut pas... il m'est impossible de vous dire exactement de quoi il s'agit sans voir les photos ou de voir sur place. Donc moi, ce que je vous conseille là, c'est de demander à un paysagiste ou à un pépiniériste de voir votre arbre. Et en fonction de la maladie, du champignon ou autre, on va peut-être utiliser des produits différents. Donc il est inutile d'utiliser un produit à large spectre. Ça n'existe pas en général. Souvent, on utilise du cuivre, mais ça peut ne pas être utile contre ce champignon-là. Donc il faut d'abord identifier le problème. Voilà.
D'accord. Alors, je vous remercie. Bon week-end. Au revoir.
Merci. Au revoir, Marie-Claire. Bon week-end.
Au revoir.
On a encore un autre appel, je crois, Heidi.
On n'a pas l'appel, hein. Les personnes n'ont pas été très patientes, mais là, maintenant, c'est le dernier moment, hein, si vous voulez poser votre question.
C'est le dernier qu'on va prendre, d'ailleurs.
C'est le 0901 70 20 20, 0901 70 20 20, pour une dernière question. Ben oui, l'heure file, hein, déjà. Est-ce que quelqu'un va encore nous appeler? Ah, on a un auditeur qui est avec nous. Oui, allô, qui est avec nous?
Oui, bonjour. Excusez-moi, je mets plus doucement le radio.
Oui, même l'éteindre complètement, ça va très bien, merci.
Oui, c'est Josiane Barman, un d'Hervelier.
Bonjour Josiane.
Bonjour.
Écoutez, j'ai mon ami qui a clarifié le gazon dehors. Et puis maintenant, cette semaine, il est venu tout plein de petits monticules de terre, avec au milieu un trou d'aération. C'est pas très grand, mais voilà, on se demande ce que c'est qui a fait ça.
Oui, alors c'est probablement. Alors déjà, c'est super bien de scarifier en ce moment, de scarifier et de, en général, de, donc scarifier, c'est enlever les mousses à l'aide d'une machine qui ressemble à une tondeuse, mais qui va couper la terre. Et puis, ça va aérer le sol, on va faire un sursemis, donc on va ressemer du gazon là-dessus, mettre un petit peu d'engrais aussi. Et pour revenir à vos petits trous, c'est probablement ce qu'on appelle des grillons, des criquets grillons, j'ai plus le nom exactement. Ça ressemble à des petites courtilières, voilà, en fait. Et puis, c'est vrai que c'est assez embêtant. Mais c'est elles qui font le petit bruit sympa qui est dans le gazon le soir ou la journée.
Donc on choisit soit c'est le gazon, soit c'est les bruits un peu méditerranéens, quoi.
Voilà, exactement.
Oui.
Alors,
d'accord.
C'est presque dommage de détruire ces plants, enfin ces petites bêtes. Après, c'est une histoire de choix. Vous pouvez, en arrosant, les décourager, puis elles iront peut-être ailleurs.
Ah d'accord, oui.
Et bien voilà.
Remplir les trous.
Remplir les trous, d'accord.
Avec de l'eau,
oui.
Et puis,
Alors on vous laisse remplir les trous. Si vous avez d'autres questions, on vous laisse nous rappeler la semaine prochaine sans problème, puisque on arrive à la fin de cette émission des jardinières. Bon week-end.
Merci à vous tous et à la semaine prochaine.
À bientôt. Merci Philippe d'avoir été là. Une très belle journée. Un bon week-end à vous tous. Merci.
7h, 8h. Les jardinières.